应该是打高尔夫了。
Voilà les enfants, à bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses ?
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue pour cette deuxième saison de votre émission de cinéma sur Transistor. Et pour ce grand retour en direct et en public, notre toile accueille les images saccadées, terribles et mécaniques du dernier opus de Bertrand Bonello, Nocturama. Quant aux yeux, ce sont ceux de Mathias et d'Aurore qui se joignent au mien aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, que se passe-t-il dans ce sulfureux Nocturama ? Tout commence dans le métro parisien. Une petite dizaine de jeunes vont, viennent, se croisent, se séparent. Ils marchent vite, fixement, mécaniquement, sans qu'on arrive à savoir ce qui les meut. Leurs actions incohérentes semblent obéir à un plan millimétré. Puis peu à peu, on comprend, jusqu'à ce que soudain, en plusieurs lieux de la ville, d'énormes explosions retentissent dans un immeuble d'affaires au ministère de l'Intérieur, entre autres. Et les jeunes gens, réfugiés dans un grand magasin désert après l'attentat qu'ils ont commis, se préparent à attendre jusqu'au matin pour rentrer chez eux. Et c'est le début d'un long, très très long cauchemar euphorique et anxieux dans l'atmosphère froide et étrange de ce magasin. Alors même si d'autres spoilers suivront certainement parce que c'est dur vu le film, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant et je vous laisse la parole Mathias et Aurore. Quel est votre avis sur ce film ?
Le malaise. Le malaise. Ça a été 2 heures d'angoisse et de malaise devant cette bande de jeunes sans but. Je n'ai pas. Ils ne se dégagent pas du film une raison, finalement, à leur acte. Et c'est le malaise parce qu'on s'attache à eux d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est très froid, très cruel.
Oui, pareil, 2 heures et 10 minutes de malaise. Assez tendu, et en fait, il n'y a pas de moment de relâche. Il n'y a aucun moment de relâche dans le film. Non, il n'y a pas de moment de relâche dans le film. Et oui, c'est vrai parce qu'on les suit, et y a aucun, c'est un film qui ne juge pas, qui ne met absolument aucun curseur moral sur l'action. Très peu de dialogue, et comme tu l'as dit, pas de raison explicite ou idéologique de l'attentat qui se prépare et qui intervient. Ce qui pourrait un peu, en quelque sorte, nous rassurer. Puisque s'il y a une raison, c'est qu'on peut, on peut la démêler, alors que là, il n'y a pas de raison, donc on est face à l'événement de façon complètement brute, et qu'on se reçoit en tant que spectateur, et notamment avec l'actualité récente, sachant que le film n'a pas été pensé par rapport aux événements, ce qui rend le film beaucoup plus effrayant, finalement.
Oui, alors je suis d'accord avec vous, quant au malaise qu'on ressent, c'est vrai que quand on sort de la salle après les 2h10 de film, on... Mais un petit moment avant d'émerger du film, je crois que c'est un peu le cas. Voir, hein. C'est un film qui a une très très grosse violence formelle dans le caractère implacable des images qu'on nous assène les unes après les autres. Mais en faisant ça, Bertrand Bonello s'y prend vraiment d'une façon extrêmement douée. Y a énormément de talent dans la façon dont il réalise ce scénario qui finalement ne contient pas grand-chose parce qu'il y a énormément de moments où on attend. Et pendant le film, il y a plusieurs moments où je me disais... C'est un peu long, c'est dommage que ce film soit raté, il serait super bien sinon. Et en fait, en sortant du film... Non, enfin, il n'était pas raté, mais il y a besoin de ces moments de latence, il y a besoin de se laisser attraper par le film et par la caméra du réalisateur et de se laisser secouer, lessiver dans tous les sens pour que vraiment toute la logique du film se mette en place et c'est une logique de marteau pilon. Et vraiment, on se retrouve à côté de ces personnages vraiment martelés du début à la fin du film et c'est là-dessus que j'aurais voulu commencer, c'est évidemment cette objectivité totale des images qu'on se prend littéralement dans la gueule, montre avant tout une jeunesse complètement en déperdition. On a cette bande d'une dizaine de jeunes qui sont vus de l'extérieur complètement objectivisés, c'est des automates. Et pendant les 40 premières minutes, on les voit seulement aller et venir dans le métro silencieusement.
C'est l'exécution d'un plan mécanique.
Oui, voilà.
Mais c'était... Les images sont très très belles et la manière de filmer est tout à fait adéquate au propos.
Et ça montre une véritable perte de repère symbolique d'une jeunesse en général qui est une vision d'une très très grande acuité aujourd'hui, je trouve.
Oui, non, enfin, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on dit jeunesse, mais c'est une dizaine environ. Je crois que j'avais vu une interview de Bonello qui disait que c'était mi-acteur professionnel, mi-personne lambda, avec des profils sociologiques très, très diversifiés. Il y a quelques... ils ont tous entre 15 et 20 ans environ.
Il y en a un plus proche de la trentaine,
Oui, mais Omar, il est un peu en périphérie, il n'est pas, pas vraiment au cœur du truc. Et... Donc il y en a quelques-uns qui viennent de banlieue, quelques-uns qui sont vraiment des fils à papa très riches. Donc, du coup, il y a un mélange, c'est pas non plus unilatéral, c'est pas juste des gens de banlieue qui vont faire un attentat au cœur de Paris, c'est pas juste des gosses de riches qui s'ennuient et qui vont faire péter parce qu'ils ont les moyens et que papa est pas content. Donc voilà, c'est aussi troublant parce que du coup, on n'a pas ces repères-là qui pourraient un peu nous expliquer le film. Et du coup, c'est ce qui est le plus dérangeant, personnellement, c'est que le film ne s'explique pas de lui-même.
Ça, et pour revenir justement à cette déperdition, alors on la voit dans la première partie du film avec ces personnages qui marchent. On s'attendrait, lorsqu'on voit un tableau de déperdition, à voir des personnages errer, mais là vraiment ils vont tout droit comme des automates. Et par contre, l'errance, on la retrouve vraiment dans la deuxième partie du film où ces jeunes sont enfermés dans un grand magasin la nuit dans la Samaritaine. Et là, ils se retrouvent dans ce symbole de la société de consommation et ce symbole qui est une véritable dévoration par ce magasin où ils se retrouvent, cet endroit devient invivable, ce temple de l'hyper-consommation auquel ils sont eux-mêmes sujets parce que la première chose qu'ils font, c'est se jeter sur tout ce qui s'est habillé, manger, etc. Mais il y a une dévoration petit à petit par cet univers.
Est-ce qu'il y a justement... Dans ce temple de l'hyperconsommation, ça va totalement casser ce que nous on reçoit comme la justification de l'acte, l'anticapitalisme de ces jeunes qui détruisent les symboles, des symboles forts de l'ultralibéralisme, la bourse,
de l'autorité surtout,
de l'autorité, du pouvoir, le ministère de l'Intérieur. Ah, voilà, ça pète dans tous les sens et ils se retrouvent et la seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est de s'enfermer dans un centre commercial. Mais c'est fort comme c'est fort comme symbole.
Et c'est une revanche aussi sur le capitalisme. C'est profiter d'une nuit où tout ce qu'offre le système capitaliste est à eux. Et finalement, c'est plus réussir à se sentir maître de quelque chose et si possible de l'intégralité du système plutôt que de chercher à le détruire, qui est vraiment la motivation de ces jeunes, je trouve.
Tu dis capitalisme, tu l'as dit plusieurs fois, mais en fait, on ne sait pas contre quoi ils sont, parce qu'ils vont regarder les grandes chaînes d'infos en continu pour voir ce qu'ils ont fait.
Ils vont sur Yahoo Actualité, ça faut le dire quand même.
La musique qui passe en boucle, qu'ils mettent à fond dans le centre commercial, c'est de la musique commerciale assumée comme telle. Une des protagonistes dit qu'ils auraient dû mettre une bombe au MEDEF, l'autre dit qu'ils auraient dû faire péter Facebook. Ils ont fait péter le ministère de l'Intérieur. Après, il y a tout un discours, un léger discours sur la démocratie ou sur la civilisation, finalement qui est quand même assez flou et assez bateau. Ouais. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'ils attaquent. En fait. Est-ce qu'ils attaquent tout de front ou est-ce que c'est à la limite de vulgaires terroristes, anarchistes comme on connaît en fait. Alors que là, pour le coup, non, on ne les connaît pas, ces gens-là.
Et à côté de ça, à côté de ces personnages, il y a le spectateur, il y a nous, et la place du spectateur est extrêmement intéressante dans ce film. Toujours cette sensation qu'on est à côté du film, sensation qu'on avait déjà dans les précédents films de Bonello. Il faisait ça avec beaucoup moins de talent dans Saint-Laurent. Et là, cette impression de toujours courir à côté d'eux, et finalement de quand même se laisser entraîner sans qu'on sache vraiment à quel moment ça se passe pendant ces 2h10.
Le jeu... Ce qui m'a beaucoup dans cette idée d'être à côté, c'est le travail sur le hors-champ, comme si la menace était tout le temps en dehors. On ne sait pas d'où elle vient et on est avec eux comment dire, dans la retransmission des informations, dans les écrans finalement, ce jeu avec les écrans de sécurité, les images qui sont filmées à l'intérieur de la Samaritaine où on les voit errer et puis se faire massacrer.
Et voilà, les pulsations de la musique aussi qui donne une espèce de tonalité angoissante.
Oui. Mais en fait, c'était assez bizarre parce que la partie dans la Samaritaine a des airs de film de mode, en fait, parce qu'il y a, il y a quasiment des défilés, il y a un côté très clip parfois, en fait, parce qu'il y a la musique qui vient, et du coup, il y a quelque chose de très artificiel et à la limite aussi du cauchemar. Où il y a cette scène qui a été reprise dans pas mal d'images, où il y a un personnage qui rentre dans une salle et qui voit un mannequin en face de lui, qui est habillé comme lui. Et ce genre de scène revient souvent. En fait, ces gens-là, en fait, sont des mannequins en face d'eux. Il y a des masques. Enfin, il y a une autre image avec le masque en or. Il y en a un qui se regarde et finalement qui arrive.
Oui, j'ai trouvé cette partie-là dans La Samaritaine assez onirique. Oui. À certains moments, mais pas un onirisme bienveillant et qui nous fait rêver.
D'ailleurs, il y a un cauchemar terrible.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le cauchemar. On voit cette scène où il y a le jeune, où il y a ce jeune là qui rentre dans la salle avec que des mannequins. Ah, elle m'a terrifiée, elle m'a vraiment terrifiée.
Et justement, c'est là que j'allais en venir, c'est-à-dire que ce film, d'un point de vue esthétique, artistique, est vraiment construit à partir d'une tonne d'artifices qui, agglomérés ensemble, font un tout véritablement cohérent, parce que énormément de scènes ressemblent à des scènes, finalement, qui sont très jolies toutes seules, mais qu'on aurait du mal à insérer dans quelque chose de beaucoup plus complet. Ce personnage qui se retrouve face à un mannequin qui est habillé comme lui, mais aussi l'utilisation de la musique. On sait que Bonello utilise des bandes de musique extrêmement fournies, extrêmement travaillées. Un truc qui est extrêmement intéressant aussi, c'est la temporalité du film, surtout dans la première partie. On a des scènes qui se déroulent, puis la même scène se déroule à nouveau pour signifier qu'en fait tout était simultané. Il y a un jeu comme ça avec la temporalité qui ajoute encore à la tension du spectateur, je trouve.
À l'angoisse. Mmh. Avec justement ces changements de point de vue, surtout ce jeu sur la temporalité dans La Samaritaine vers la fin, elle est terrible.
C'est quasiment en temps réel, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est en temps réel. Et... Ouais.
Fin qu'on va peut-être pas détailler dans toutes ces ramifications, mais c'est vrai qu'elle laisse un petit peu...
Oui, on est lessivé. Enfin,
véritablement. Et enfin, la sensualité de ces corps, quand même, parce qu'il y a un certain nombre de scènes très très belles avec, où la caméra approche, avec une grande douceur, les corps de ces jeunes. Je pense à ce moment du film où d'un coup ça part en comédie musicale pendant 2 minutes, cette espèce d'instant de suspension.
Ah, il était très très beau. Oui. Il y a l'un des personnages se travestit et chante My Way. C'est ça. Et c'est absolument magnifique. Je me suis totalement laissée emporter dans ce moment de grâce. Et d'un seul coup, il y a ce mouvement de caméra à l'extérieur et on entend juste les sirènes hurlantes des patrouilles de police, les hélicoptères, tout ce chaos dont sont protégés finalement ces jeunes qui vivent dans une naïveté absolument... effarante, quoi.
Oui, et ça montre bien finalement comment fonctionne le film, cette façon de toujours attraper le spectateur et remettre une tension jusqu'au bout, pour finir par faire quelque chose qui est vraiment un bloc et qui est d'une grande violence symbolique, mais qui montre quand même un talent assez extraordinaire, et c'est vraiment, je trouve, une très très grande réussite. Voilà,
Oui, enfin, le pire, c'est que ces jeunes sont très beaux, en fait. Enfin, j'ai eu l'impression. Non, mais il y a un côté film de mode et couverture de magazine, où parce que même si il y a un portrait sociologique des jeunes, en fait, finalement, quand ils sont en groupe, on a l'impression qu'ils les filment comme ils prendraient en photo des. Et même la fin, il y a certains plans de la fin, où on dirait quasiment des photographies de mode.
Oui.
Dans le dernier plan qui est absolument terrible et qu'on ne vous révélera pas ici, mais qui justifie à lui tout seul les 2h08 de film qui ont précédé.
Et c'est vrai qu'il était...
Ouf. Voilà, donc c'est Nocturama de Bertrand Bonello. C'est en salle actuellement au Comédia et au CNPTRO, et ça sera encore en salle pour un moment à Lyon. Et pour terminer, je vous laisse avec une musique que vous n'entendrez plus de la même façon après avoir vu ce film. Voilà, et pour conclure, finissons avec notre habituel tour d'horizon des sorties récentes au cinéma. Et je commence avec Tony Erdmann, c'est pour toi Mathias.
Merci.
Film de Maren Adé, adulé par la critique à Cannes, où Inès, femme d'affaires psychorigide, travaillant pour un cabinet de consulting à Bucarest, voit débarquer son père, qui lui demande « Es-tu heureuse ?» Et face à son incapacité à répondre, le facétieux sexagénaire impose à sa fille un personnage ridicule et perturbant qu'il se crée pour bousculer tout son monde et ses représentations, et il s'insère comme ça dans la vie de sa fille. Ça donne une comédie extrêmement touchante parce qu'il y a des moments très très drôles quand ce père fait le bouffon, et malgré tout ça pose des questions très très profondes sur la filiation, sur la mort aussi, et on peut le dire sur le sens de la vie en général, même si ça fait un peu... Et Mathias, tu as adoré?
J'ai adoré. Non, il faut vraiment aller le voir. Enfin, je sais que le mot comédie allemande peut laisser un peu songeur, mais non, mais c'est vraiment une très très... En plus, enfin, le film est long, il dure 2h40. Mais enfin, j'ai ri du début à la fin.
Donc voilà, c'est Tony Erdmann de Maren Adé, et ça sera encore en salle pour un petit moment également. Je mentionne aussi Relève, histoire d'une création, qui suit la création du premier ballet de Benjamin Millepied à l'Opéra de Paris. C'est un documentaire sur le monde de la danse que toute la critique annonce véritablement saisissant. Alors je sais que c'est pas très sexy de parler de films documentaires et d'aller en voir au cinéma, malgré tout il faut. On essaiera de parler de ce film dans une prochaine émission si j'arrive à trouver des chroniqueurs motivés. Je continue avec un film qu'il faut absolument que vous alliez voir, et il n'est plus en salle pour longtemps. C'est sorti au début de l'été, ça s'appelle La Tortue Rouge, et c'est tout simplement le plus beau dessin animé qui ait été tourné depuis au moins 10 ans, si ce n'est depuis l'invention du cinéma. C'est une véritable splendeur, et il est interdit de rater un tel monument de poésie.
Il est encore à la fourmi.
Il passe encore à la fourmi et au CNP Bellecour, ça dure 1h20, c'est splendide, c'est beau à pleurer, et ça justifie vraiment l'expression beau à pleurer, parce que c'est d'une telle beauté qu'on ne sait pas quoi faire face à ce... Juste cette... Voilà. C'est en gros l'histoire d'un homme échoué sur une île déserte et qui réapprend à vivre seul, puis avec une mystérieuse tortue rouge qui débarque et qui refait sa vie sur cette île. C'est extrêmement dépouillé dans la narration et malgré tout d'une profondeur incroyable. Je vous renvoie vers la bande-annonce si vous n'êtes pas encore convaincu par tous mes superlatifs. Enfin, on en a déjà parlé tout à l'heure, le festival Lumière va avoir lieu début octobre à Lyon, dans un peu toutes les salles de cinéma de Lyon. Le programme a été dévoilé hier, il y a des trucs absolument fantastiques, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, Les Portes du Paradis de Michael Cimino et autres véritables splendeurs. Il faut absolument aller voir ça et prendre votre accréditation et vos places dès maintenant. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Aurore et à Mathias pour avoir chroniqué. Un grand merci à Baptiste et Nicolas pour la technique, et à très bientôt sur Transistor. Vous pouvez nous retrouver.